Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». J'ai le plaisir de recevoir le docteur Paul Samuth, qui est pharmacien et herboriste. Paul Samuth, comme son grand-père et sa grand-mère, est pharmacien et herboriste. Je suis moi-même diplômé de la faculté de pharmacie de Montpellier en phytothérapie et plantes médicinales. Et je l'ai pratiqué, cette science et cette thérapeutique, tout au long de ma carrière. C'est une discipline qui me passionne. Bonjour et merci à vous d'être avec nous, Paul Samuth.
Bonjour, avec plaisir.
Le métier d'herboriste était reconnu pour la première fois en France en janvier 1312. La corporation d'herboriste a été reconnue, elle, au XVe siècle. Le certificat d'herboriste a été délivré par la faculté de médecine à partir de 1778 et... En 1927, a été fondée l'École nationale d'herboristerie à Paris. À partir de 1803, par la loi du 21 germinal en 11, l'exercice du métier d'herboriste fut assujetti à la réussite à un examen. C'est la loi du 11 septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie qui supprime le certificat d'herboriste et entraîne dans le même temps l'extinction de cette profession distincte de celle de pharmacien. La vente des plantes à usage thérapeutique se trouve de ce fait confiée aux pharmaciens dans le cadre du monopole pharmaceutique. Alors, Paul Samuth, qu'en est-il actuellement ?
Mais actuellement, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il faut être pharmacien pour pouvoir dispenser toutes les plantes. Mais il y a quand même une exception, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qui sont sorties de ce monopole pharmaceutique. Il y a exactement 148 plantes qui sont sorties du monopole pharmaceutique et qui peuvent être vendues par des gens qui sont non pharmaciens. Donc, des herboristes, mais le métier, le diplôme n'existe plus, mais il y a des gens qui maintenant font des petites formations et qui se disent herboristes, mais donc du coup, on va les appeler les herboristes. Ça peut également être vendu dans des magasins bio. Par exemple, on trouve également des plantes en grande surface.
Ah ouais, c'est la question que je vous posais. Est-ce qu'en supermarché, on peut trouver des plantes à visée thérapeutique ?
Eh ben oui, par exemple, regardez, vous pouvez trouver des tisanes en supermarché.
Oui,
des tisanes. Vous trouvez de la menthe, vous trouvez des trucs. Eh ben, on trouve de la menthe, on trouve de la camomille. Ça, ce sont des plantes qui sont sorties.
J'ai vu des gélules.
Alors, les gélules, c'est différent. Les gélules, ça fait partie du complément alimentaire. D'accord. Et le complément alimentaire, c'est une autre règle.
C'est-à-dire que
tout ce qui est plantes modifiées, hein, là on peut avoir des plantes qui sont sorties du monopole, des plantes qui appartiennent au monopole pharmaceutique. Si la plante elle est transformée, soit mise en gélule, soit incorporée à autre chose dans un complément alimentaire, le complément alimentaire peut être vendu par des non-pharmaciens.
Alors, est-ce qu'il y a des gens herboristes qui forment, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pour montrer un peu, qui forment un peu d'autres herboristes sous le manteau.
Oui.
On vous demande, vous, d'être formé. Est-ce que des gens disent, ça me passionne, ça m'intéresse, vous avez l'expérience, formez-moi.
Oui, on me demande. On me demande, tiens, est-ce que vous pourriez venir faire des interventions ?
Oui, non, mais alors, ça, c'est une information, c'est pas une formation. Je pense que les auditeurs ne deviendront pas phytothérapeutes avec notre émission. Ou alors, sinon, il faut me le dire.
Après, pour faire une formation qui soit validante, il faut bien sûr des accréditations, tout ça, tout ça. Mais moi, ça ne me dérange pas d'enseigner aux gens à quoi sert telle ou telle plante. Mais je ne vais pas former des gens. Donc.
Alors, vous nous avez dit qu'il y avait 141 plantes qui étaient dans le domaine public. 148, pardon, excusez-moi. Qui étaient dans le domaine public, appelons ça le domaine public.
Mais
si quelqu'un vient à vendre une plante qui n'est pas dans ce domaine, qui est d'un domaine privé
non, au domaine du monopole pharmaceutique.
Du monopole. Alors, il risque que quoi ?
Eh bien, une sanction.
Nous ne parlons pas du hashish et d'autres choses, nous parlons de plantes.
Et une sanction, en fait, ce sera à ce moment-là l'ordre des pharmaciens qui recourra à une sanction en fait.
L'ordre des pharmaciens va porter plainte pour pratique illégale de la pharmacie.
C'est ça.
Alors, il faut bien savoir que en France, pratiquent les soins les docteurs en. Alors, en tout honneur, commencer par les docteurs en médecine. Mais les docteurs en chirurgie dentaire, les docteurs en pharmacie et les docteurs vétérinaires. Ce sont les quatre disciplines de soins qui peuvent être pratiquées librement. C'est-à-dire que les gens ont accès direct. Les autres professions sont ce qu'on appelle des paramédicaux. Ils sont des fois beaucoup plus compétents. Ça n'a rien à voir. C'est une autorisation administrative et universitaire. Bon. Mais le médecin ne peut pas pratiquer la pharmacie, le pharmacien ne peut pas pratiquer la médecine, le chirurgien dentiste ne peut pas pratiquer la pharmacie, le vétérinaire ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ce n'est pas croisé, ce n'est pas parce qu'on est pharmacien qu'on ne peut pas. Ça, c'est important. Par contre, il existait, donc je l'ai vécu, une dérogation, on pouvait être pro-pharmacien.
Oui.
Et en Lozère, moi, j'ai été médecin pro-pharmacien, mais on ne faisait pas de phytothérapie. Mais il fallait faire le diagnostic, aller voir les patients et leur apporter les médicaments adéquats. Bon.
Oui, oui.
Donc, vraiment, le médecin n'est pas compétent en pharmacie. Et c'est important. Il prescrit, moi je pense qu'il y a phytothérapie, des gélules, etc., les teintures mères. Il y avait d'autres, les laboratoires, il y avait beaucoup de laboratoires de phytothérapie qui avaient leur propre désignation. Donc, les pharmaciens distribuaient et géraient les médicaments. C'est important, ça. Hein. Et donc, vous avez un panel de combien de plantes que vous pouvez disposer dans votre herboristerie?
Bah, après, le pharmacien, il peut avoir toutes les plantes qu'il veut. C'est toutes les plantes.
Si jamais on vous demande une plante un peu exotique, vous pouvez l'avoir.
Alors, je dis, il peut détenir. Après, oui. Est-ce qu'il a les moyens physiques de se la procurer?
Oui, c'est différent.
Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'il bah, y a des plantes qui sont endémiques et qui vont pousser à droite et à gauche. Et bah, déjà, il faut savoir comment se la procurer. Et puis après, c'est pas, le pharmacien n'a pas le droit de prendre son petit sécateur, d'aller couper la plante et ensuite de la vendre. Il faut aussi qu'il y ait toute une traçabilité.
Une traçabilité,
c'est important. Imaginez si la plante elle est pas bien séchée, et bien, il peut y avoir des moisissures et ça peut entraîner des pathos.
Ouais.
Donc, il faut qu'elle soit bien séchée. Il faut que la plante, en plus, elle soit bien séchée et que ce soit fait dans les bonnes conditions pour pas qu'il reste d'eau et pour pas qu'elle pourrisse non plus.
Voilà, une plante, elle est recueillie, mais il faut qu'elle soit recueillie, cultivée d'une certaine manière, recueillie d'une certaine manière, collectée d'une certaine manière, séchée ou enfin préparée d'une certaine manière et conservée.
Conservée et après... et après, en fait, nous, les plantes que l'on vend, elles sont analysées. Donc, on a à la fois une teneur en actif qui est mesurée pour voir si on est conforme à la pharmacopée.
Ah,
parce que dans la pharmacopée...
Vous avez des contrôles, vous avez des gens qui viennent vous contrôler?
Bien sûr. Et dans la pharmacopée, hein, toutes les plantes, elles sont référencées et on voit, tiens, bah, verveine doit contenir tant de ça. Donc ça c'est recueilli. Donc à partir de là, on voit si on est conforme ou pas. Si on est conforme, on la garde. Si on n'est pas conforme, on la détruit.
Et
après, on vérifie aussi l'absence de pesticides, l'absence de métaux lourds.
Oui, donc on peut consommer les plantes en herboristerie, en pharmacie, en toute tranquillité, quoi.
Ah oui.
Alors, vous avez un site internet, rappelez-nous.
Herboristerie Samut.
Donc, c'est simple. Et vous comment? Vous fournissez dans des producteurs qui sont régionaux, nationaux, internationaux?
Oui, on essaye de travailler au maximum dans le local.
Oui.
Donc, moi, j'ai travaillé chez Phyto France. Donc, du coup, je sais qu'ils ont des bonnes pratiques,
ouais.
Que ça se passe très bien. Et en plus, ce sont des plantes françaises. Donc,
c'est
à la fois français et local.
Il faut consommer français.
Donc, au maximum, je travaille avec eux. Après, je travaille aussi avec des... Il y a des cueilleurs qui dans le Diwa. Le Diwa, Clairette de Die, tout ça.
Ah
tout
oui,
ça.
D'accord, oui.
Souvent, je dis le Diwa, ils ne comprennent pas, mais quand je dis
oui,
Clairette de Die, les gens
disent, tout de suite.
Oui. Bah, bien sûr. Bon, vers
ah, mais
Valence.
Le vin, c'est la phytothérapie, quand même. Hein.
Et polyphénol, tout ça. Donc, vers Valence, tout ça. Et puis aussi dans la vallée du Rhône, dans la vallée
mais
du Rhône.
Ils vont cueillir dans la garrigue?
Ah bah non, ils ont des
parcelles. Ouais.
Ils ont des parcelles.
On cueille plus dans la garrigue.
Et c'est un peu interdit.
C'est un peu interdit.
En fait, on n'a pas le droit de cueillir des plantes
dans la
sauvages.
Nature, oui, on n'a pas le droit de cueillir. Il faut les cultiver, quoi. Et votre
on a le droit de cueillir quelques plantes sauvages un petit peu pour soi, mais pas de les revendre.
Ah, il y a une question qu'il faut que je vous pose. C'est un peu entre parenthèses. Est-ce que les champignons rentrent dans la pharmacopée ou pas? Est-ce que vous avez C'est encore à part.
Ouais, ça, c'est la mycologie.
Oui, donc ça, c'est la mycologie.
Ah, mais par contre, oui, ils sont à la pharmacopée.
Voilà, c'est-à-dire qu'on utilise. Est-ce qu'on utilise des champignons à visée thérapeutique?
Eh oui.
Quoi?
Là, par exemple. Ericium, tiens, c'est un champignon qui va agir comme antioxydant, il va agir sur la mémoire. Qu'est-ce qu'on a il y en a un, je l'ai sur le bout de la langue.
En espérant que ça ne soit pas la monifaloïde.
Non, mais il y a des champignons qui vont booster l'immunité.
Ah, très bien. Ça.
Et j'ai toujours le mot sur le bout de la langue.
Il y en a combien de champignons?
utiliser. Ouais. Alors, des champignons, si on prend tous mes cours de mycologie, rien qu'en un an de myco, on n'avait pas fait tous les champignons.
Non, mais qui sont utilisés, pas pour faire des omelettes, qui sont utilisés en pharmacie, quoi, comme thérapeutique.
Que je connais, là, je dirais 5, voire moins d'une dizaine.
Moins d'une dizaine, quand même.
Voilà, et je ne compte pas les champignons hallucinogènes, mais ça.
Oui, non, mais ça, c'est une autre émission. C'est une autre émission. On pourrait faire les plantes.
Ça, c'est l'émission nocturne. Ça.
Voilà, ça, c'est les plantes et la toxicomanie ou les conduites toxicomaniennes à base de plantes. Alors, la vente des plantes à usage thérapeutique se trouve de ce fait confiée aux pharmaciens dans le cadre du monopole pharmaceutique. Et alors, actuellement, vous nous avez dit que ça ne bouge pas. Est-ce que vous pensez que ça peut évoluer? Est-ce qu'il y a des lobbies qui voudraient que l'herboriste soit plus libre?
Reiki.
Ça s'écrit comment? C'est le champignon, ça.
Le champignon, ça m'est revenu. Comment ça s'écrit? Reishi, R-E-I-S-H-I.
Et on le trouve où, ce champignon?
Celui-là, il va être en complément alimentaire directement.
Ah, d'accord.
Il va être réduit, mais en poudre.
Mais il pousse ici, quoi. Je veux dire, on peut... Enfin, ici, ou à Lozère, à Montaigne.
Non, parce que je ne l'ai jamais vu.
Ouais. Vous allez vous promener en forêt pour voir les champignons?
Oui.
Pour les ramasser?
Un petit peu, ouais.
C'est extraordinaire de faire une promenade en forêt en automne avec un pharmacien. On passe la tête vraiment penchée, on ne voit plus le cime des arbres. Et alors bon, revenons à l'herboristerie. Oui. Vous ne pensez pas que l'herboristerie peut redevenir une profession?
Alors disons que une profession à part entière, honnêtement, je ne sais pas, j'aimerais bien. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de groupes pro-nature, pro-herboristes qui apparaissent et qui refont surface. Mais de là à ce qu'un diplôme d'herboriste pur et dur revienne, je ne suis pas sûr. Après, je dirais quand même que c'est bien que ce soit encadré et que l'herboriste...
Soit sérieux.
Il faut
quand même conserver les plantes, il faut savoir les conserver.
Mais il faut connaître aussi les pathologies, il faut, également savoir quels sont les effets.
Et alors, pourquoi vous avez choisi l'herboristerie, de travailler en herboristerie? Même si c'est sur Internet, vous travaillez dans une herboristerie, il n'y a que la banque de distribution qui change. Mais...
Pourquoi j'aime l'herboristerie? C'est mon grand-père qui m'a donné envie de découvrir les plantes. Voilà.
Et vous préférez ça plutôt qu'une officine traditionnelle?
En fait, j'ai bossé dans une officine traditionnelle. J'ai bossé dans une officine où il y avait mon herboristerie. Ouais. Et là, j'avais des coups de fil de toute la France. Donc, je me suis dit, ce serait bien déjà que je puisse aider toute la France.
Ouais.
Et ça, c'était grâce à un site internet.
Et votre rayonnement
Toute la France.
Toute la France.
Ouais.
Eh bien, nous recevons aujourd'hui le docteur Paul Samut, qui est pharmacien et herboriste, sur son site. Alors, rappelez-nous votre site.
herboristeriesamut.com.
Je vous propose une petite pause musicale en écoutant Pavane pour une enfant défunte de Maurice Ravel. Thank you. Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Et nous recevons aujourd'hui le docteur Paul Samut, qui est pharmacien et herboriste. Paul Samut, vous nous parlez aujourd'hui de l'herboristerie. Si une personne veut se soigner par les plantes, comment peut-elle faire aujourd'hui ?
Comment peut-elle faire ? Eh bien, elle peut se rendre dans une herboristerie. Bon, il y en a de plus en plus qui fleurissent.
Ouais.
Donc,
c'est de jolis thèmes pour une herboristerie.
Oui, n'est-ce pas ? On en plante un petit peu par-ci,
c'est
par-là.
C'est très bien.
Donc, elle peut se rendre dans une herboristerie. Après, les pharmacies, maintenant, de plus en plus, proposent des gammes à base de plantes. Donc, du coup, c'est quand même bien d'avoir un pharmacien qui connaît à la fois les plantes et à la fois la pathologie de la personne. Et si elle connaît également son traitement, c'est encore mieux pour éviter des effets indésirables. Mmh. Et si la personne n'a pas d'herboristerie ou veut carrément échanger avec moi, à ce moment-là, elle va sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Elle tape herboristerie Samut et j'apparais.
Et là, je voulais une question de concurrence quand même, parce qu'il faut un peu, faut être ouvert. Parce que sinon, est-ce qu'il y a beaucoup de sites comme vous ? En France.
Il y en a pas beaucoup, non, une dizaine, moins
pas plus de 10, toute France entière.
Mm-hmm.
Ah ben c'est une niche comme on dit, et donc c'est bien. Alors une question que je voulais vous poser parce que bon, ça a fait beaucoup de débats, ça a toujours fait beaucoup de débats. Il y a des bibliothèques de thèses qui ont été faites sur l'homéopathie. On va pas rentrer dans le débat, mais j'aimerais avoir votre pensée de l'homéopathie. Qui provient en grande partie des plantes.
Mmh.
Alors rappelez-nous d'abord les principes de l'homéopathie en deux lignes.
Principe de l'homéopathie en deux lignes. On prend une plante, on va la faire infuser, enfin on la faire macérer dans de l'alcool pendant 1 à 2 mois, ce qui nous donne une teinture mère. Et à partir de cette teinture mère, on va diluer. On va diluer en fait le concentré. En fait, on a deux types de dilution en homéopathie. Donc je vais essayer de faire 2 secondes par type de dilution. Il y a la dilution allemannienne et la dilution korsakovienne. Alors la korsakovienne, elle est quasiment pas utilisée, donc on va discuter de la allemannienne.
Et donc en fait, allemannienne qui vient de
Son fondateur Hahnemann.
Voilà, qui est un médecin qui a fondé la conception de l'homéopathie.
Voilà. Donc on va prendre une entité, enfin une goutte.
Entité
qu'on va diluer dans 100.
Voilà.
Et
c'est pour ça qu'on dit centième. CH,
Alors non.
C'est centième andamanienne.
Et non, c'est centémillième.
Centémillième,
voilà.
Ouais.
Donc 1 dans 100, c'est le DH.
DH, voilà, oui.
Et si on fait 1 dans 1000,
1000, c'est CH.
Ça, c'est CH. Donc ça nous donne 1 CH. Et après, cette dilution-là, on va reprendre une unité qu'on va rediluer dans 1000 unités d'eau.
Donc ça fait, quand il y a CH7,
eh bien c'est dilué
7 fois 7 dans 1000.
Ouais, c'est 7 fois dilué dans 1000.
Ouais,
donc là,
c'est pour ça que les scientifiques actuels vous disent il n'y a plus de principe actif.
Voilà, mais en fait l'homéopathie c'est pas une science de principe actif, c'est comme l'acupuncture, c'est pas du principe actif. On est sur un autre type de médecine. On est sur la médecine homéopathique. Et là, ça fait référence à la mémoire de l'eau, puisqu'en fait, c'est l'eau qui a été en mémoire avec l'actif qui prend une forme moléculaire et qui se souvient de l'actif.
Alors, vous voyez que c'est un sujet polémique, mais il y a des médecins homéopathes.
Bien sûr.
Des médecins homéopathes qui pratiquent actuellement.
Je crois que j'en ai un en face de moi.
Oui, mais enfin, bon, mais qui pratique actuellement l'homéopathie. Non, l'homéopathie était très bonne méthode, en plus, pour tout ce qui accompagne la femme enceinte. C'est-à-dire que comme la femme enceinte, eh bien, on ne peut pas trop lui donner de médicaments. Donc, il y a des thèses qui ont été faites avec des laboratoires, avec l'université de pharmacie, l'université de médecine. Donc, c'est quand même des universités qui ont fait des thèses. Donc, il faut le savoir. Après, on peut toujours discuter, c'est polémique, on aura sûrement des réactions. Mais une émission d'information, c'est fait pour avoir des réactions. Alors, il y a une autre question que je voudrais vous poser en matière de plantes. C'est l'oligothérapie. Qu'en pensez-vous ?
Alors, oligothérapie, On va pas être sur des plantes, mais sur des minéraux.
Ça peut être un allié de la phytothérapie.
Mais en fait, tout est allié. C'est-à-dire qu'il faut jamais, c'est comme la vie, jamais tout est blanc, jamais tout est noir. En fait, c'est un équilibre.
Et tout est rose, la vie.
Ah, oh, c'est joli ce que vous dites. Donc, c'est la vie, c'est un équilibre constant. C'est comme la mer, le flux, le reflux, ça s'en va, ça revient. C'est cyclique. Et donc, l'oligothérapie, donc, ce sont les oligo-éléments. Donc, les oligo-éléments, il y en a partout dans notre corps, et notre corps, c'est un équilibre d'oligo-éléments. Et on peut avoir des déséquilibres. Donc oui, il faut savoir rééquilibrer tout ça.
Alors, je vais vous citer deux médecins, le docteur Dupuis à Nîmes, qui était quand même très féru en oligothérapie, il a écrit des livres, il a pratiqué, son fils est aussi médecin, et puis le docteur Gérard Fuchs, qui est psychiatre en psychiatrie, donc il faut le dire, qui a connu le médecin qui soignait Van Gogh, lorsqu'il avait ses pathologies, qui s'est coupé l'oreille suite à ses pathologies. Et ce médecin était homéopathe, c'est-à-dire que Van Gogh était soigné par un homéopathie. Et Gérard Fuchs a rencontré ce praticien. Alors, un sujet qui était très important en tant que phytothérapeute, je veux quand même qu'on en parle, c'est l'aromathérapie. J'aimerais avoir votre sentiment, nous la définir, et que devient cette méthode pour combattre les infections aujourd'hui, où elle pourrait nous servir avec des multiples résistances aux antibiotiques.
Alors l'aromathérapie, pour rappeler aux gens l'aromathérapie, c'est tout ce qui est huile essentielle. Donc l'huile essentielle, on va prendre la partie qui contient des essences, donc par exemple dans l'orange ça va être l'écorce, la peau d'orange, ça peut être les fleurs, ça peut être l'écorce, c'est la partie qui contient en fait cette essence. Et là on va faire une distillation. Donc il faut un distillateur, donc vous ne pouvez pas le faire chez vous, contrairement aux infusions ou décoctions. Donc on fait une distillation, et à partir du distillat obtenu, on a en fait ce concentré qui est huileux, c'est une huile essentielle. Et en fait c'est du concentré de plantes. Donc c'est pour ça que là, on va travailler en gouttes, on ne va pas travailler en pur, parce que ça va être très 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 fort. Donc l'aromathérapie, il faut faire attention parce que il y a beaucoup de composés volatiles et cycliques. Donc c'est pour ça que
composés volatiles, rappelez-nous.
Ça va être des phénols. Alors, ouais. c'est, d'un point de vue moléculaire, ce sont des phénols souvent, mais ça s'évapore et ça sent.
Voilà. Et c'est-à-dire ça sent parce que ça s'évapore.
Et c'est ça. Et si on respire trop, ça peut donner mal à la tête. C'est pour ça qu'on va pas le donner aux enfants. Aux jeunes enfants, et on fera également attention aux femmes enceintes, parce que comme c'est huileux, ça passe.
Alors, moi j'ai prescrit une aromathérapie, comme on fait des antibiogrammes, on fait des aromathérapies, enfin, le même principe que l'antibiogramme avec des antibiotiques, c'est-à-dire qu'on va voir, prélever un germe, le mettre avec des antibiotiques, on faisait la même chose avec les huiles essentielles. Est-ce que ça se fait toujours?
Oui, alors ça se fait sous chromatographie, en fait, pouvoir voir en fait quels sont les composants phénoliques de l'huile essentielle, bien sûr.
Voilà,
mais la question c'est plus, est-ce qu'on peut faire un antibiogramme en présence d'huile essentielle?
Voilà, c'est ça.
Pour voir si c'est bactéricide ou ça.
Voilà. Ça se fait moins depuis que c'est déremboursé.
Je l'ai pas vu faire.
Parce que ça serait quand même intéressant pour des infections. Je pense que ça serait intéressant que des laboratoires de recherche puissent travailler.
De toute façon, je veux dire, c'est écrit à la fois la pharmacopée et c'est prouvé, oui. Que en fait, je vais reparler du terme phénol, mais en fait, l'actif, c'est un phénol, a des propriétés bactéricides. Donc, c'est-à-dire que ça tue les bactéries.
C'est important.
Donc, vous avez 5 huiles essentielles qui sont bactéricides. C'est le clou de girofle, l'huile essentielle de clou de girofle, la sarriette, la cannelle, le thym. Alors, thym à thymol, et la cinquième,
je vous laisse faire, c'est vous qui m'en évitez.
Oui.
Je vais pas prendre le pouvoir
un,
sur
deux,
vous.
3, 4, 5.
Connaissez-vous, sans forcément les citer, des médecins qui pratiquent la phytothérapie et l'homéopathie?
Oui, j'en connais quelques-uns quand même.
Sur Nîmes.
On travaille ensemble.
Bon, d'accord. Donc, si les gens veulent, ils peuvent essayer de trouver des médecins qui pratiquent ces disciplines. Alors, j'aurais aimé aussi connaître votre opinion sur la phytothérapie en médecine chinoise. Est-ce que vous avez une expérience?
Eh bien, la médecine chinoise utilise beaucoup la phytothérapie Et je trouve ça, oui, très intéressant, oui.
Alors la médecine chinoise, bon, je suis acupuncteur, donc je fais de la médecine chinoise. C'est une discipline de médecine totalement différente, qui paraît complètement stupide à des médecins occidentaux, pour faire un diagnostic de médecine chinoise. Et après, on fait une thérapeutique médecine chinoise. Alors l'acupuncture n'est qu'une partie. On peut utiliser, il y a, par exemple, d'autres moyens physiques, comme les moxa ou autres. Mais j'ai, bien évidemment, le projet d'une émission sur la médecine chinoise et l'acupuncture, mais l'ayant pratiqué. Et puis, il y a toute la phytothérapie, et on utilise aussi beaucoup d'animaux en médecine chinoise. Le gros problème qu'on avait quand on pratiquait, c'est qu'il fallait avoir des plantes qui pouvaient être vendues en Europe, et bon, ça, c'était relativement difficile, mais il y a beaucoup à faire. Alors, je voudrais vous poser comme dernière question, avez-vous pensé à écrire sur la phytothérapie et l'herboristerie ?
Oui.
Vous l'avez fait ?
Non.
Mais c'est un projet, ça, c'est un projet. Ah, c'est un projet. Il nous reste à vous remercier, Dr Paul Samut, et à vous retrouver sur votre site internet, herboristerie du Dr Samut. Encore merci infiniment à vous.
Avec plaisir.
Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui, des ouvrages bien évidemment sur la phytothérapie, l'herboristerie. Le grand manuel de phytothérapie, broché septembre 2019 de Éric Lorrain chez Duno. Toujours sur Duno, physiologie et huiles essentielles, comment les huiles essentielles agissent sur les différents systèmes de l'organisme, de 2022 de Arnaud Géa et Philippe Banel. Le guide complet de la phytothérapie brochée, 2013, d'Anne McEntering et Antonia Leibovici pour la traduction. Le courrier du livre, la phytothérapie, se soigner par les plantes, d'Anne-Sophie Nogaret chez Erol. Et traité de phytothérapie chinoise de Philippe Sionneau chez Guy Trédaniel. Vous avez de quoi lire et apprendre. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé un trésor sur Radio Alliance Plus 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus.